Ils vont se multiplier.
Chut, chut, chut. Venez, on va se mettre en retard pour l'émission.
Ne faites pas trop de bruit. T'as pas l'odeur.
On a tout vous.
En 25 ans d'émission, j'en ai jamais raté une. J'ai jamais raté un rendez-vous avec mes auditeurs.
Say it again.
On a tout vous. Go away now.
Allez, action.
Action, pourquoi faire?
En 1789, tout un peuple se met à s'imaginer une autre existence pour bâtir une nouvelle société. 230 ans plus tard, ces belles espérances cognent toujours à l'individualisme forcené. Tout cela est raconté dans un film historique et une comédie, mais surtout deux œuvres bien ancrées dans le présent. Bonjour tout le monde et salut Laurent.
Bonjour Christine, citoyenne, citoyen, bienvenue.
Oui, faire un film historique qui ne sente pas la naphtaline, un film pour raconter les destins de figures historiques et de femmes et d'hommes du peuple. Bonjour Pierre Scheller.
Bonjour.
Un peuple et son roi, votre troisième film raconte de la prise de la Bastille à l'exécution de Louis XVI, l'espoir de tout un peuple pour s'inventer une citoyenneté, une conscience politique. Cette révolution de 1789, dites-vous, qui n'en finit pas de nous hanter. Preuve en est avec cet autre film qui s'interroge avec beaucoup d'humour, il en faut, sur la place de l'utopie aujourd'hui. Bonjour Gustave Carverne.
Bonjour.
Vous avez réalisé avec Benoît Delépine votre huitième film, déjà, I Feel Good, sur notre société obsédée par l'apparence, le pouvoir et l'argent, face à ce petit groupe de résistants, un village Emmaüs, qui croit toujours à la dynamique collective. Un peuple et son roi et I Feel Good sortent mercredi prochain. Les sorties de cette semaine, elles, sont dominées par un grand film intimiste déguisé en western, Les Frères Sisters. C'est parti!
S'il faut combattre, il faut combattre avec des piques, des fusils, des canons, des marteaux. Combattre pour se défendre, ce n'est pas un crime.
Vous avez libéré quoi? Sept pauvres diables, un fou, quatre faussaires, un voleur de poules.
Paris résistera aux troupes du roi. Paris a fait tomber la Bastille.
Un peuple et son roi. En 1789, un peuple est entré en révolution. Votre film, Pierre Scheller, croise les destins de femmes et d'hommes du peuple et des figures historiques, je le disais. Lieu de rencontre, la toute jeune Assemblée nationale. Projet très ambitieux. Plusieurs années, dont trois d'écriture, avec l'idée de faire un film historique, mais surtout qui résonne dans le présent.
Oui, c'est ce qui m'a frappé quand j'ai commencé à regarder de très près ces archives et de très près ce qui s'était dit.
Et pourquoi tout d'un coup s'intéresser à cette époque-là, tout d'un coup?
Parce que ça fait du bien de quitter un peu son temps.
Oui.
Non, pour y revenir.
Ouais. Voilà. Et oui, c'était à la fois s'alléger de ce que j'avais traversé comme émotion et en faisant l'exercice de l'État, qui était un film extrêmement contemporain, avec une tension sur le présent, etc. Et donc j'avais besoin un peu de partir ailleurs, tout en étant un peu aux mêmes endroits, c'est-à-dire de revenir au point d'origine qui est cette Révolution française.
Parce que pareil, il y a cette bipolarité dans l'exercice de l'État, il y a la politique d'un côté incarnée par ce ministre, et le peuple incarné par son chauffeur et sa femme à qui le ministre va rendre visite et qui lui donne un peu les récriminations justement populaires.
Exactement, il y a ça. Mais alors, si vous voulez, c'est en fait, je m'aperçois que les deux films sont un peu complémentaires.
Oui.
C'est-à-dire, vous avez l'exercice de l'État qui est un film sur la prise de pouvoir et comment le conserver, qu'est-ce que ça fait d'être dans cette tension du pouvoir. Et l'autre versant, qui est aussi la sensibilité politique, c'est les droits. Qu'est-ce que c'est avoir ses droits? Qu'est-ce que c'est avoir une opinion? D'où vient cette espèce d'ancrage en nous qu'on a une opinion, qu'on a un sentiment d'égalité, qu'on a un sentiment d'écoute, de consensus, de débat? Et tout ça, et la Révolution française, je dis pas que ça les invente, mais ça leur donne une vie qui est absolument incroyable et qui est enthousiasmante.
Et comme votre premier film s'appelait Versailles, tout va bien, la boucle est bouclée.
Oui, je vais changer de métier, je vais faire des meubles après.
C'était écrasant quand même, toute cette documentation. Comment se faire un chemin dans cette révolution? Peut-être filmer une révolution à hauteur d'hommes et de femmes?
Ben, je me suis aperçu que les historiens que j'ai rencontrés, j'en ai rencontré beaucoup, c'était vraiment des partenaires. Il y a un pacte un peu avec les historiens sur ce film. C'est-à-dire, les historiens vivent, travaillent sur ces temps, leur donne un éclairage, leur donne une actualité, et tout ça est assez maltraité parce que on a l'impression que c'est un travail du temps passé.
Maltraité par qui, vous voulez dire?
Bah, c'est-à-dire que si vous, je le vois, hein, dans l'opinion qu'on a de la révolution, c'est pas la révolution. L'opinion qu'on a de la révolution commune, c'est-à-dire une image de violence, une image de c'est plus que ça, d'un peuple insurrectionnel. C'est la révolution, c'est un peuple actif, c'est un peuple décisif, c'est un peuple qui s'émancipe et qui s'est battu, qui a discuté, qui a cherché, qui s'est trompé. Et mais ce peuple, il nous fonde.
Deux de vos historiens de référence sont Arlette Farge et Sophie Vaniche, qui sont des historiennes du peuple. Plutôt.
Oui, c'est des historiennes de l'émotion politique.
Mmh. Et populaire.
Et populaire, chacun à son domaine. Arlette Farge n'a pas touché à la révolution, elle a touché à ce qu'elle a beaucoup étudié, c'est la vie fragile, qui m'a beaucoup servi dans le film pour dessiner les personnages du peuple. Mais en fait, si vous voulez, le truc de base, c'est est-ce qu'on peut associer au mot politique le mot espérance?
Et je reviens sur ces historiens. L'historien aussi, c'est pour ne pas se tromper, être précis et en même temps s'envoler dans la fiction. C'est compliqué de mélanger les deux, hein. Une réalité historique et une part fictionnelle à l'intérieur, notamment celle consacrée au peuple français.
La part fictionnelle, en fait, votre question, j'ai essayé que la vie simple, la vie de tous les jours, ce qui marque une vie, des rencontres, des naissances, des amitiés, ça soit aussi pris dans les événements révolutionnaires et que les événements révolutionnaires rejaillissent aussi sur les existences de chacun, sur la vie de chacun. Donc il n'y a pas fiction contre réalité, c'est ensemble.
Il y a un très bel exemple de ce que vous dites, c'est quand vous montrez que la destruction de la Bastille, pour le quartier qui l'entoure, c'est l'irruption de la lumière et du jour. Enfin, les faubourgs vont voir le jour parce que la Bastille est abattue.
D'écrire l'enthousiasme de ces hommes et de ces femmes, et surtout de ces femmes.
Sacredier, vous ne devinerez jamais ce qu'ils viennent de voter à l'Assemblée.
La Constitution.
Et quand est-ce qu'on la voit, notre Constitution?
Ils y travaillent, Gabriel. Ils y travaillent encore et encore.
Je sais. Les biens de l'Église qui reviennent à la nation.
Déjà fait.
Des comédiens citoyens.
Déjà fait.
Des juifs citoyens.
Déjà fait.
Dit.
Alors?
Je sais. Des femmes actives. Des femmes qui seraient citoyennes. Quoi, tête creuse? Elle n'est pas tombée toute seule, la Bastille. J'y étais.
On y était toutes à la Bastille.
Pierre Scholler, les femmes étaient là à toutes les dates clés de cette révolution.
À tous les instants. Elles étaient là parce que le peuple était là. Elles étaient là parce qu'elles écoutaient les députés dans les tribunes de l'Assemblée. Quand elles ne savaient pas lire, elles se faisaient lire les journaux, les affiches dans la rue. Elles étaient là dans les mobilisations. Elles étaient là aussi dans la demande d'une vie plus juste, d'une vie plus heureuse, d'une vie plus égalitaire. Elles étaient là. C'est étrange de poser la question, mais elles étaient là.
Elles ont fait cette marche sur Versailles qui a entraîné le départ du roi du château pour rejoindre Paris.
Oui, c'est un événement, on pourrait y consacrer un film à ces trois jours de la marche d'octobre, parce que moi ce qui m'a le plus intéressé, c'est l'irruption sur l'Assemblée nationale, qui a à peine quelques mois, elle vient de naître, elle est encore dominée par, il y a des nobles, il y a des membres du clergé,
il y a
l'ancien régime qui est encore là, et arrive cette délégation de femmes qui ont marché pendant 4 heures sous la pluie pour aller de la place de l'hôtel de ville jusqu'à Versailles, avec une énergie humaine, une énergie de vie, parce que elles en peuvent plus de voir que les farines n'arrivent pas à Paris, elles en peuvent plus de voir que la reine et les marquis ont piétiné la cocarde qui pour elles représente un espoir. Et c'est très concret, la politique, à ce moment-là. C'est pas des idées, c'est pas des idéaux, parce qu'on associe à la révolution beaucoup d'idéaux qui sont importants, mais il y a aussi quelque chose qui est de tous les instants, de tous les êtres.
Faire un film historique, ça veut dire gérer les centaines de figurants. J'ai lu un article dans lequel, sur votre tournage, où un figurant vous dit « ce qu'on dit là, c'est historique » et vous lui répondez « non, c'est le présent ». Il fallait réexpliquer, en fait, à cette foule de figurants, ce qu'ils étaient en train de jouer et ce qui était en train de se jouer aussi.
Écoutez, alors, déjà, faire un film historique, c'est travailler avec beaucoup de collaborateurs et collaboratrices, parce qu'il y a beaucoup de métiers. Et c'est comme un... C'est ça qui est aussi passionnant, c'était une aventure de cinéma.
Passionnant et écrasant aussi quand même, non?
Ah non.
Non.
Ah non. J'avais une espèce de devise interne, c'était rendre léger ce qui était lourd et rendre lourd ce qui était léger, qui était une manière de d'être simplement cinéaste sur un plateau, de travailler avec les comédiens, de se donner des espaces d'improvisation, de se donner des espaces de liberté, de réagir avec une lumière. Et on avait énormément travaillé grâce à Denis Fred, le producteur, et toutes les équipes. Il suffisait que ça soit bien préparé, que chacun connaisse un peu sa partition.
Rester en France, éviter le plus les effets spéciaux et tourner le plus possible à l'extérieur pour ne pas avoir justement cet effet naphtaline.
À la fois, il y avait l'effet, éviter l'effet naphtaline et puis je voulais aussi éviter l'effet Varsovie, c'est-à-dire parce que si vous allez bon, en même temps Amadeus est tourné là-bas,
oui,
mais si vous allez aussi dans un pays, c'est pas que des lieux que vous filmez. La figuration, pour moi, ce film, la figuration, quelque part, j'ai rien contre l'Europe centrale, mais ça me plaisait que les plusieurs centaines de figurants soient d'ici et vivent le film, parce qu'il y en a beaucoup qui ont eu plusieurs jours de figuration, ouais. Et ils étaient au cœur du projet aussi.
Combien de jours a duré le tournage?
45 jours, 9 semaines, comme l'exercice de l'État, d'une certaine manière.
Et ce que j'aime aussi, c'est qu'il y a un refus du lyrisme dans le film, spectaculaire. Vous voyez, il y a un truc de quotidienneté.
C'est-à-dire que pour moi, quand les événements étaient lyriques, ils devaient être lyriques, ouais. mais c'était pas tout le temps. Je vous dis, c'est la révolution dans les yeux, c'est un rapport intime aussi à ce qui se passe.
Alors, vous avez filmé cette assemblée. On va écouter cette intervention de Saint-Just, parce qu'on n'a pas encore parlé du roi, qui évoque, lui, le sort qu'on va réserver au roi.
La parole est au citoyen Saint-Just.
Je dis que le roi doit être jugé en ennemi. Que nous avons moins à le juger qu'à le combattre. De peuple à roi, je ne connais pas de rapport naturel. Les citoyens se lient par le contrat. Le souverain ne se lie pas. Pour moi, je ne vois point de milieu. Cet homme doit régner ou mourir.
Détrompez-vous, monsieur Saint-Just. Juger le roi serait la moindre des dignités.
Il opprima une nation libre. Il se déclara son ennemi. Il abusa les lois. Il doit mourir pour assurer le repos du peuple, puisqu'il était dans ses vues d'accabler le peuple pour assurer le sien. On ne peut régner innocemment. Tout roi est un rebelle et un usurpateur. Il est le meurtrier de la Bastille, de Nancy, du Champ de Mars, des Tuileries. Quel ennemi ? Quel étranger nous a fait plus de mal ? On cherche à remuer la pitié. On achètera bientôt des larmes. On fera tout pour nous intéresser, pour nous corrompre.
Pierre Scheller, la figure du roi, vous l'avez aussi détournée parce qu'on l'a beaucoup appris dans l'histoire, que c'était un être mou, qui ne prenait pas de décision, alors que votre roi à vous, c'est une figure plutôt audacieuse, curieuse, polyglotte.
Oui, mais j'ai rien inventé.
C'est pas
un détournement d'avion.
C'est une sorte de réhabilitation quand même.
Je suis pas allé dans la cabine de pilotage pour détourner la vision du roi.
Non.
Voilà, comme tout film, vous abordez des faits, Gustave, il arrive dans une communauté, il la regarde, il pose son regard à un endroit. Tout film est fait comme ça.
Mais Laurent Lafitte, vous le dirigez comment? Parce que c'est lui qui incarne incroyablement ce...
Alors moi, j'ai pas dirigé les comédiens sur ce film. Je les ai regardés, beaucoup. Je leur avais donné des indications, des impulsions comme ça. Mais je blague à moitié.
C'est difficile quand même pour eux qui incarnent des personnages aussi ancrés, célèbres dans l'histoire, vous voyez, de laisser un acteur libre cours.
Ensemble, on a posé le personnage comme ça, dans deux trois idées assez simples. Et après, Laurent, c'est qui m'a surpris, à chaque fois que je vois le film, il me surprend. Il s'est emparé du personnage. Il a suivi les intuitions qu'il avait. Et j'ai découvert sur le plateau comment le personnage vivait. Et d'emblée, j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui était passionnant. Et donc, j'ai laissé Laurent être comédien et être actif sur le jeu.
Vous refaites du roi ce qu'il était, un animal politique. C'est ça.
Je fais du roi quelqu'un de lucide.
Oui.
Qui est au cœur des enjeux politiques, il est un roi. J'avais une image sur ça. Louis XVI, imaginez qu'il a une chaîne qui l'ancre au fond de la mer, et c'est toute sa dynastie. Et la révolution, c'est l'eau qui monte, qui monte, qui monte. Et lui n'arrive pas à se libérer ou ne veut pas se libérer de cette chaîne qui le plombe. Et finalement, c'est un drame, c'est un désastre personnel et un désastre politique que ce roi n'est pas enclenché avec les événements.
Il n'a rien compris, il n'a pas compris.
Il n'a pas voulu comprendre.
Oui.
C'est pas la même chose.
Ouais. Vous avez engagé pour cela parce qu'il fallait des grands acteurs hein, pour incarner ces figures.
On l'a entendu ouais. avec Niels.
Oui, il y a Adèle Haenel, Olivier Gourmet, Noémie Lvovsky, Denis Lavant, Louis Garrel,
Robespierre.
Oui. Et là, on l'a entendu avec Saint-Just.
Ouais.
À l'époque, ils parlent nettement. Ils disent ce qu'ils ont à dire. Après, ça a suivi des faits ou pas. Parce qu'ils parlaient pour convaincre.
Mais vous avez gardé.
C'est leur mot, c'est leur parole. Exactement. J'ai rien changé. Mais bien sûr, je n'ai rien changé.
Ce sont des stylistes, hein. Des orateurs politiques hors pair. Je crois qu'il faudrait, relire.
C'est ça qui m'a vraiment étonné dans le film. Enfin, plein de choses, hein. Il y a énormément de choses. Enfin, il y a beaucoup. Je l'ai vu hier soir, donc c'est encore tout frais dans ma mémoire, mais. C'est vrai que la parole ouais. est par rapport à ce qu'on voit maintenant à l'Assemblée, mais
oui,
je veux pas dénigrer bêtement comme ça la période actuelle, mais ils avaient une façon de s'exprimer qui était
ils étaient
extraordinaire.
Tous nourris d'orateurs latins, hein, c'est ça leur source.
C'est ça. Et puis ils disent les choses. Si vous voulez, c'est marrant parce que c'est quand même un discours. C'est des discours écrits en 1790, 1791.
Ouais.
Mais vous les entendez comme de. Ouais. C'est clair comme de l'eau de roche. Après, on est d'accord ou pas d'accord, mais c'est clair comme de l'eau de roche.
On va écouter Robespierre.
Jetez vos yeux sur cette classe. Qu'on désigne avec mépris par le nom de peuple.
Ah, c'est son nom.
Moi, il s'appelle, lui.
Je l'ignore. Je ne connais que Mirabeau.
C'est un avocat. Il défend l'égalité. On ne sait pas si c'est Robespierre ou Robespierre.
Vous qui dégradez la plus grande partie du genre humain par les mots de canaille, de populace, cette multitude d'hommes dont je défends la cause ont des droits qui ont la même origine que les vôtres. Qui vous a donné le pouvoir de le leur ôter ?
Suffit ! Monsieur de Robespierre, vous êtes un prédicateur de l'anarchie. Voulez-vous une assemblée de mendiants ? D'orphelins ?
Taisez-vous, de traite bizarre sur les tribunes !
Il n'y a pas deux manières d'être libre. Il faut l'être entièrement, redevenir esclave.
Passons à l'ordre du jour,
vous pouvez donner des lois aux citoyens, mais vous ne pouvez pas les anéantir.
Vous vous égarez, comme d'habitude.
Sage décision.
Retournez à Arras.
Il n'y a pas de manière d'être libre. Il n'y en a qu'une. La nôtre.
Pierre Scheler, donc c'est Robespierre, Louis Garrel. Et comme le disait Gustave Carven par rapport aux propos de ces débats, il y a une vraie résonance avec le présent quand même.
Bah, ça
il y a une
parle.
Volonté, bah oui.
Ça nous parle. Moi, mon travail, ça a été d'être au plus près de ce temps-là, de ce vieux temps, de le dépoussiérer,
oui.
de le rendre vivant, de le rendre lumineux, de le rendre beau, parce qu'il y a aussi, je voulais vraiment que le spectateur ait le plaisir du film historique. C'est un plaisir, le film historique. Mais que c'est pas non plus un musée d'antiquité. Et surtout, je voulais aller vers les comédiens et que les comédiens nous soient les passeurs de cette vie que je sentais.
Un peuple et son roi sort mercredi prochain. On arrive en 2018. Un type en peignoir et pantoufles marche sur l'autoroute. Et pas retrouver sa sœur Monique après
Louis
des années d'absence. Elle dirige un centre Emmaüs à Pau.
30 secondes. Hier encore, il y a une chèvre qui s'est échappée de son enclos. C'est un client qui l'a rattrapée de justesse avant qu'elle arrive sur l'autoroute. Il faut faire quelque chose, hein. Est-ce que les gars de l'atelier mécanique pourraient passer et enterrer le grillage à au moins 30 cm de profondeur? Ça peine une journée de travail pour deux, Roger, Bernard. Oh, vous battez pas, les gars. Bon, allez, on en reparlera plus tard. Bon, sinon, à la laverie, il y a encore eu des problèmes ce matin. Il y en a un qui a chargé la machine. Résultat des courses, ça a bloqué tout le système. On a dû ouvrir le tambour et toute l'eau. Il y a quelqu'un qui passe derrière vous pour éponger. Il faudrait faire gaffe. Il faut remplir la machine à moitié, quitte à faire son linge deux fois par semaine. Ça marche ? Allez, bon appétit, les gars.
Quelle langue, quelle faconde, disiez-vous, Augustin.
Franchement, rien à envier à ceux de l'époque de Louis XVI.
Non, Yolande Moreau, donc, son frère Jacques, incarné par Jean Dujardin, est un loser qui n'a qu'une idée en tête, trouver l'idée qui le rendra riche. Donc, I Feel Good, votre film réalisé avec Benoît de Lépine, est fait, en fait, né d'un lieu, c'est un village Emmaüs de l'Escarpeau. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment, à quoi ressemble ce lieu?
C'est un lieu qu'on voit dans toutes les largeurs dans le film, hein, parce qu'on est allé il y a 5 ans, comme ça, par hasard, sur les conseils d'un ami, voir ce lieu. Et puis, cinématographiquement, c'était génial, parce qu'en fait, ils construisent sans permis de construire, donc ce sont des maisons un peu de briques et de broc, un peu à l'envers, très colorées. Et puis c'est surtout, je sais pas, rendre hommage à Emmaüs. Pour nous, ça comptait beaucoup avec Benoît. Enfin, à force d'être jeune, on commence à être un peu vieux. Alors on est de la génération de l'abbé Pierre, hein, qui était quand même la personnalité préférée des Français pendant longtemps. Mmh. Et voilà, donc Emmaüs a toujours compté beaucoup pour nos parents et pour nous. Et quand on est allé là-bas, on a vu aussi un centre peut-être un peu différent des autres, dans la mesure où ils vivent quasiment en circuit fermé, ils font du bio, ils ont des terres, ils ont des cochons, ils ont une épicerie, une boulangerie bio, et puis ils recyclent les objets, bien sûr, comme dans tous les Emmaüs, mais les hommes aussi, puisque c'est le but aussi c'est la philosophie de ce lieu. Et voilà, donc pour nous, c'était extraordinaire de tomber sur cet endroit, et du coup, on a décidé d'écrire une histoire qui se baserait là-bas.
Cet endroit qui est dirigé par Germain, qui vous a accueilli les bras ouverts.
Ah oui, mais c'est la philosophie Emmaüs, c'est-à-dire qu'en fait, on a été comme les compagnons, il nous a rien demandé, rien sur notre passé.
Il vaut mieux, il a bien fait.
De voilà,
nos prénoms, et puis, mais il a jamais voulu le scénario, par exemple. Donc voilà.
Bonjour Germain. Bonjour Germain.
Bonjour.
Ah Germain.
Bonjour Gustave.
Ah c'est pas vrai. Merci. Bonjour, je suis trop content.
comment vous avez réagi quand vous avez vu ces deux énergumènes arriver chez vous?
Mais Gustave, il le dit très 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 bien. C'est que on les a accueillis comme on accueille tout le monde chez nous. Ils sont arrivés. On leur a offert un café. On leur a présenté une chambre. Ils se sont installés. Ils ont observé. Et voilà. Et on les a accueillis comme on accueille tout le monde. Et on a été sincères dans l'accueil. Je crois que c'est ça qui est important. Et après, c'est sûr, ces deux personnages, quand on a appris à se connaître, à se découvrir, mais je trouvais ça extraordinaire, cette relation qu'on a pu avoir, qui est énorme, énorme.
Ils ont installé leurs ateliers en plus de cinéma au milieu de votre communauté.
Oui, mais ce qu'il y a d'intelligent chez Benoît, Gustave, Jean, Yolande et toute l'équipe, ils sont pas arrivés en pays conquis, ils sont arrivés avec leurs petites chaussures, leurs petits sabots, ils se sont pas imposés, ils se sont totalement inscrits dans la dynamique du village, et je trouve ça intelligent de leur part, cette relation humaine et de cette intelligence au niveau de l'échange qu'on a pu avoir là. Vraiment, moi j'ai découvert une communauté cinématographique qui est venue découvrir une communauté qui est Emmaüs, avec toute son originalité, comme le disait très bien Robespierre, et où justement ils viennent nous respecter, ils viennent nous voir, et ils viennent en même temps avec ce qui a toujours été l'objectif de l'abbé Pierre à travers sa revue Faim et Soif, d'être la parole des hommes sans voix. Et ça, je dis bravo à Gustave, bravo à Benoît. Ils nous permettent d'avoir cette voix qui est étouffée justement par cette politique aujourd'hui qui rejette de plus en plus l'exclusion.
Donc l'esprit du lieu, de votre lieu, est dans le film I Feel Good, que vous avez vu, j'imagine.
Oui.
Vous avez vu
le film? Bon, je l'ai vu 3 fois et je n'ai pas cessé de le revoir parce qu'il est. Je m'y retrouve et on s'y retrouve, et nous dans le village, on n'arrête pas d'en parler parce qu'on s'y retrouve totalement. Parce que il y a de l'humain, il y a de l'humour, il y a de la beauté, il y a du politique, il y a le combat que mène justement le mouvement d'Emmaüs. Et là, je dis bravo, bravo Gustave, bravo Benoît. Et ça a été très 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 bien joué par Yolande, par Jean qui a été extraordinaire. Enfin, vraiment,
attaché de presse, Germain.
Comment?
Quel attaché de presse tu fais? Merci.
Ah non, mais il faut aller le voir, je disais même. Il faudrait que les politiques viennent le voir, ce film, parce que dans le cadre d'une alternative, dans le cadre que vivre autre chose, ou dans tu l'as dit tout à l'heure, par rapport au bio, par rapport au respect de la nature, par rapport au respect de l'humain, la valorisation de l'humain, on est tout à fait dans ce schéma-là. Les politiques, il faut qu'ils sortent du toujours plus, du toujours le fric qui est vraiment le rôle, je mets ça entre guillemets, le rôle de con que joue Jean. Et c'est là que Jean, en même temps, il découvre aussi que, je lisais une critique, il découvre aussi que l'humain, eh bien, à sa place, et que peut-être il va avoir un regard dans le cadre du cinéma beaucoup plus proche de l'humain. Bravo.
Merci beaucoup, Germain. Merci à vous. Vraiment, et longue vie à votre village d'Emmaüs à l'Escarpeau. Et dans cette communauté, Gustave Carvern et Benoît Delépine, vous plongez un corps étranger, donc ce Jacques, un type qui incarne l'individualisme, la course à la beauté, à l'argent, au consumérisme. Une idée qu'il a eue en retrouvant un ami.
C'est que fou ce que t'as changé. Je t'aurais pas parlé, je t'aurais pas reconnu.
Ouais, tu te souviens qu'au lycée, on me surnommait l'Américain parce que je faisais 130 kilos. Et bah, tu vois, un jour, j'en ai eu marre de cette vie de chapon. Mon sens, c'était devenu de la crème pâtissière. On aurait pu construire une barre d'immeuble avec tous les mille feuilles que j'ai avalées. J'ai commencé par faire une sleeve.
Et que
bah, tu sais, on t'enlève un goût d'estomac comme ça.
Ouais, ouais.
Et ensuite, nouvelles dents, un plan capillaire, liposuction, lifting.
Ah, carrément.
Et tu te souviens que j'étais avant-dernier de la classe en terminale?
Bah oui, t'étais avant moi.
Eh ben, juste grâce à ma transformation, j'ai pu retrouver plus facilement du travail. J'ai commencé comme commercial. Ouais. Et maintenant, je suis PDG de la boîte. On est leader sur le marché de la pâtisserie industrielle. Et bien entendu, j'ai trouvé tout de suite une gonzesse au Lions Club. Le vrai rêve, quoi.
Ah bah ouais.
Faut que j'y aille parce que Bobonne, elle m'a joué du clairon, là.
Ouais. Tu peux régler, parce que moi, j'ai que des bitcoins. Et...
Oh ouais. Pas de soucis, là, c'est pour moi.
Allez.
Comment il s'appelle cet acteur en face?
C'est Xavier Mathieu, c'était le leader des Contis, vous savez, qui avait, enfin, à l'époque des Continentales, donc le grand conflit social. Et bon, bah, il s'est fait virer, hein, comme tout le monde. Et puis, donc, il perce au cinéma. Enfin, il essaye de jouer, puis nous, on le prend dès que possible. Et c'était marrant de lui faire jouer le rôle d'un parvenu avec une toute petite piscine, mais une piscine quand même. Et voilà, non, mais c'est ce que disait Germain aussi, on est des compagnons du cinéma, enfin, je veux dire, on essaye de prendre des copains, enfin, de faire jouer un groupe d'acteurs qu'on a élargi d'ailleurs avec Jean Dujardin, parce qu'on n'avait jamais travaillé avec lui. Mais je sais pas, on essaye de poursuivre notre chemin un peu comme des compagnons.
Comment ça se passe ce cocktail justement entre ces hommes et ces femmes que vous rencontrez comme ça par hasard et des acteurs installés comme Dujardin?
Bah, quand on est simple et généreux comme Jean Dujardin, on s'adapte aux non-professionnels. Puis nous, on le connaissait pas plus que ça, hein, parce qu'on l'avait rencontré à Cannes dans une soirée. On avait tapé dans la main à 4h du matin, donc en disant on fera un film. Donc bon, ce sont les meilleurs contrats, on le sait en général à 4h du matin. Mais en tout cas, voilà. Après, on fait pas de lecture, pas de répétition. Donc à la limite, on l'a vu deux fois comme ça au déjeuner pour parler un peu, mais. Donc, quand il est venu sur Emmaüs, il s'est adapté non seulement à la communauté, mais aux comédiens qui n'étaient pas tous des professionnels. Avec, bah, je sais pas. Enfin, c'est une question de générosité à ce moment-là. C'est même plus une question de quoi que ce soit et de talent aussi pour rebondir quand l'autre a un problème de texte, etc. Enfin, c'est aussi une intelligence de jeu, quoi.
Pierre Scheller, vous avez vu le film I Feel Good.
Oui.
Vous comprenez le rapport un peu entre vos deux, effectivement,
bah
sur
oui, y a un rapport,
les laissés pour compte.
Il y a un rapport, oui, il y a un rapport assez profond entre les deux films.
Ouais.
D'ailleurs, c'est marrant le hasard des sorties et le hasard de travail. Mais on sent des choses. De toute façon, on est cinéastes, on regarde, on est des cinéastes qui enfin, je veux pas parler au nom de Gustave, mais on essaye de juste que le cinéma soit raccroché à ce qu'on vit.
Ouais.
Et c'est pas un hasard si ça converge.
Et c'est une lutte aussi. On veut raconter une lutte, Gustave?
Oui, une lutte. Enfin, c'est pas nous, c'est pas vraiment une lutte. Malheureusement, on aimerait que ce soit une lutte, par contre.
Faire une photo de la société et filmer des gens qui sont sur le bas-côté de la route, quoi.
Ouais, mais justement, quand vous parlez de lutte, moi, je regrette, et c'est ce qui m'a plu dans le film de Pierre, c'est justement cette force qu'avaient ces gens-là à ce moment-là pour s'interroger. Il y avait un respect du, de la pensée politique chez chacun d'entre eux qui était étonnant, alors que maintenant, bon, les gens se détournent de la politique. Là, ils étaient en plein dedans et, enfin, je sais pas, moi, c'est ce qui m'a plu aussi, c'est cette capacité des gens à réfléchir, à trouver des solutions, à changer les choses. C'est la révolution, c'est ça aussi, hein, c'est de foutre un grand coup de pied à la fourmilière et pas, un coup de mocassin à gland dans la fourmilière, parce que ça marche moins bien.
Ça marche pas.
Et moi je trouve que c'est très fort parce que on a l'impression que le système est tellement violent qu'il fracasse les êtres et que la première des résistances, c'est rester humain. La première des choses, c'est de rester humain. Et si on a encore un peu de force, d'aider l'autre à rester humain. Et puis, si on a encore un petit peu de force, mais il n'y en a pas beaucoup, c'est localement de commencer à envisager autre chose. Mais il y a quelque chose de très vicieux et qu'on commence à bien comprendre dans le capitalisme, c'est que plus vous le critiquez, plus vous essayez de montrer ses défauts, plus il se renforce à cet endroit-là. Et c'est ça qui est très compliqué avec le capitalisme. C'est que il se renforce continuellement des crises.
Ouais, c'est ça. Et même Yolande, à un moment donné, dit à son frère, mais tu es malade, et en fait, ils vont voir le médecin, et à la fois, ça se retourne, c'est-à-dire que c'est lui qui dit, mais non, mais c'est toi qui es malade. Donc c'est toujours, effectivement, comme dit Pierre, le capitalisme, c'est une espèce de rouleau compresseur abominable dans lequel on est placé, c'est ce que dit le film aussi. Et
c'est ce qui donne une tonalité plus grave, je trouve, que l'ensemble de vos films précédents. Oui. On en sort, y rit, mais du rire.
Ouais, mais c'est plus optimiste que les autres films, quand même, parce qu'on avait fait un film Le Grand Soir qui rejoint aussi, d'ailleurs, l'idée de révolution, parce que justement, Benoît Poulvord et Albert Dupontel, dans ce film, essayaient de convaincre les gens de faire la révolution. Ils se retrouvaient à deux dans un hangar. Et donc voilà, c'était la question, est-ce qu'on peut faire la révolution aujourd'hui? Donc ça rejoint encore le film de Pierre. Et en fait, je pense que les événements sont pas assez, je sais pas, il manque une grave, je sais, on n'est pas allé peut-être c'est pas assez loin dans la misère, enfin, pour résumer, pour que les gens se soulèvent, pas assez loin dans l'écologie, enfin, qu'il y ait un problème écologique pour que les gens se soulèvent. Il manque peut-être un truc grave, mais quoi que Fukushima est arrivé, puis on s'aperçoit que le nucléaire continue. Donc je ne sais pas ce qu'il faut pour que il se passe quelque chose. Peut-être Pierre, toi, je suis sûr que tu as la solution.
Pierre Scheller.
Je suis un peu comme toi.
On est un peu tous pareils, je crois.
Ça s'appelle I Feel Good, réalisé par Benoît de Lépine et vous, Gustave Carverne, et Un peuple et son roi, Pierre Scheller. Les deux films seront face à face et complémentaires mercredi prochain.
Donc il faut aller les voir tous les deux.
Et j'espère complices.
Oui, sûrement.
Ce sont deux films presque France Inter.
On se retrouve pour les sorties après Chris la Marcheuse.
Je fais toujours. personne qui pleure. Fièvre au matin, nouvel air. Je m'en suis fait, je vais m'en défaire. À la blessure, c'est plus rien. J'ai connu pire, j'ai connu la honte. Je vais marcher très longtemps et je m'en vais trouver les ponts qui redessinent. Je vais chercher et hontément les coups portés sur moi, la violence facile. Je vais marcher tout le temps et je m'en vais forcer les regards agressifs. Je vais toujours au devant, il me tarde de trouver la violence facile.
On va parler de, des frères Sisters, Laurent de Jacodia.
On en a beaucoup parlé la semaine dernière.
Nos invités sont très vexés.
On a dit tout ce qu'il fallait en dire la semaine dernière.
C'était un très grand film, mais bon, il sort pas en même temps que vous, donc tout va bien. On va commencer par Leave No Trace de la réalisatrice américaine Debra Granik, l'histoire de Tom, qui a 15 ans. Elle habite clandestinement avec son père dans la forêt qui borde Portland, Oregon. Limitant au maximum les contacts avec le monde moderne, ils forment une famille atypique et fusionnelle jusqu'à leur expulsion. On pense à Captain Fantastic, quand même à Into the Wild, mais avec une approche plus documentaire, un portrait sec avec ses avantages, son exigence et son principal inconvénient, moi je trouve, une mise à distance qui nous éloigne vraiment de l'empathie, non ?
Mais oui, ce sont en fait, j'ai découvert ces gens, des néo-survivalistes, c'est ce qu'on appelle ainsi ces citoyens américains qui se détachent comme le faisait, effectivement, on y pense quand même beaucoup au héros de Into the Wild. D'ailleurs, les deux films sont sur le même tempo, si je puis dire, c'est-à-dire c'est un fait divers réel, oui, qui a donné lieu à un livre, qui donne lieu à un film. Et effectivement, ce qui, comme à vous, me pose problème là, c'est une sorte de, à force, si vous voulez, d'être dans la distance respectueuse à l'égard de ces personnages, Granik, la réalisatrice, nous perd un peu en chemin, on finit par s'ennuyer, ce qui pour une aventure de ce type-là ne devrait pas être le cas.
L'amour est une fête de Cédric Anger, France 1982. Deux patrons d'un pipe show, Franck et Serge, c'est Canet et Lelouch, sont en fait deux flics infiltrés, deux enquêteurs chargés de procéder à un coup de filet dans le marché du X. Et le film va raconter comment, progressivement, et chacun à sa façon, va oublier l'enquête et glisser vers le plaisir. Bref, comprendre et finalement aimer et ce milieu et toute la liberté qui va avec. Tout comme le réalisateur qui nous offre une vision proprement idyllique de l'époque, très précisément quand on tournait encore en pellicule et à l'orée du sida. Un monde où les actrices n'étaient pas encore malmenées ni exploitées, les mafieux marchands pas si méchants et les réalisateurs avaient encore des aspirations artistiques. Bref, une version fantasmée du milieu, pourquoi pas, pour régler ses comptes avec la nôtre d'époque et célébrer l'érotisme et l'insouciance sexuelle. Alors parfois ça marche, sur les ambiances, la BO, un tournage X grâce au grand talent de Xavier Beauvois, une soirée folle chez le roi du porno, l'immense et dingue. Michel Faux, en revanche, cela marche beaucoup moins avec les deux flics, Canet est en sous-jeu permanent et Lelouch en surchauffe, notamment dans une scène totalement irritante et inutile lorsqu'il suit un cours de tennis et qu'il pète stupidement les plombs. L'ensemble reste bancal, l'enquête un prétexte, le porno soft, évitons la censure et agrégeons-nous un public plus large, et le titre « L'amour est une fête », gentille utopie comme ce film.
Oui, ça finit quand même par poser quelques problèmes, cette vision parfaitement idyllique du porno, comme s'il y avait eu un âge d'or absolument génial où tout était bien. D'ailleurs, quand même, les grandes absentes de ce film sont, comme par hasard, les personnages féminins. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas un seul qui tienne, sauf effectivement d'être des ombres manipulées dans un film, mais ça ne suffit pas certainement à faire un propos. Alors, comme vous, de ce film où finalement je ne sais pas où veut nous emmener le metteur en scène, je retiendrai deux noms, Xavier Beauvois, effectivement, ouais, et Michel Faux, qui cabotine à loisir, mais pour notre plus grand plaisir.
Ah, extraordinaire. Avant l'aurore, de Nathan Nikolovitch, Mirinda, un Français travesti prostitué, vit au jour le jour dans les faubourgs de Phnom Penh et va rencontrer Pana, une petite fille échappée de la prostitution et qui va bouleverser son équilibre entre doc et fiction dans un Cambodge rongé par le pouvoir et les trafics.
Oui, alors bon, on va dire les mauvais esprits, bien sûr. Encore un film sur les transgenres. C'est vrai qu'il faudrait quand même faire attention à ne pas, ce ne soit pas un thème récurrent à force comme ça et qui devienne une sorte de tarte à la crème. Mais c'est très très bien en parler. Mais il faut effectivement, je pense, faire un peu attention aux effets de mode. Mais bon, ça n'est pas le cas ici parce qu'effectivement, à la fois la tentation documentaire, mais très très heureuse, du film rend le propos vraiment parfois malaisé, malaisant pour le spectateur. Je crois qu'il faut dire qu'on est mis dans une face à des choses qui sont pas forcément faciles à regarder, faciles à vivre pour nous spectateurs. C'est un film âpre. Moi, c'est l'adjectif qui me vient le plus facilement à l'esprit, avec des choses sur effectivement, y compris la transformation d'un corps. C'est un très très beau tableau, une fois de plus, absolument pas spectaculaire, mais dans un récit intimiste et sur le Cambodge aussi, qui reste un beau film. Voilà ce qu'on peut dire.
Fortuna de Germinal Rouault, vous avez vu l'affiche avec ce surtitre « Attention, chef-d'œuvre ». Il y a des distributeurs qui n'ont pas froid aux yeux, ils nous affichent. Quoi faire pour attirer le chaland? Pourquoi attention? Pourquoi chef-d'œuvre? Attribué normalement à la perfection, la maîtrise et une imagination remarquable, même si le film a une belle ambition, raconter le sort des immigrés clandestins à travers le destin d'une Éthiopienne de 14 ans recueillie dans une communauté religieuse dans les Alpes suisses et qui rencontrera un autre réfugié africain dont elle tombe amoureuse, deux êtres fracassés par leur destin, plongés dans les décors sublimes, la montagne filmée en noir et blanc, un grand sens du cadre, mais surtout un réal complètement amoureux de ses plans qu'il prolonge jusqu'à épuisement, et cette beauté vraiment affecte le fond du sujet qui manque de chair et d'émotion.
Mais oui, c'est-à-dire qu'il est photographe à la base, oui. Son réalisateur, ça se sent beaucoup. Alors c'est pas un défaut, bien sûr, c'est pas un défaut de faire des belles images. Il y a un propos qui est de contrer le misérabilisme de l'histoire, de ce que ça montre, des réalités que ça montre, par effectivement un superbe noir et blanc, des images magnifiques, mais aussi avec quand même des propos lourdement symboliques sur tout ça. Donc on reste finalement très très à l'extérieur de cette histoire, alors qu'on devrait peut-être y être plus dans une sorte d'empathie.
Volubilis, du réalisateur marocain Faouzi Ben Saïdi. Abdelkader est vigile et Malika est employée de maison. Ça se passe à Meknès. Ils viennent de se marier, ils sont très amoureux. Malgré les problèmes d'argent, ils rêvent d'emménager ensemble. Mais un jour, Abdelkader va vivre un épisode d'une grande violence, une grande humiliation. C'est un mélodrame social pour dénoncer un système, un pays et son écart incroyable entre les riches et les pauvres.
Oui, alors vous savez ce que l'événement, hein, c'est qu'il perd un bouton de son costume. On se croirait un peu dans un film roumain. Non, mais oui. C'est ça, c'est la toute petite chose qui crée l'immense séisme. Alors, on a un peu de peur de parler d'un film marocain après Sofia, parce que Sofia, c'est un très 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 grand film qu'on a vu récemment. Mais Volubilis tient bien la route sur une autre note, peut-être, mais tout aussi socialement d'ailleurs à la fois complexe et dur, avec effectivement ce point de départ en quelque sorte, ce petit rien qui fait que on va parler ensuite d'un incroyable déclassement social. C'est un vrai regard, je dirais presque marxiste, sur la société marocaine actuelle.
Le Poulain, de l'auteur de BD Mathieu Sapin. Arnaud Jaurès, 25 ans, novice en politique, intègre par un concours de circonstances l'équipe de campagne d'un candidat à l'élection présidentielle et devient l'assistant de Agnès Karadzic, directrice de la communication, une femme de pouvoir et d'expérience qui l'attire et le fascine. Il y a un peu de Baron Noir et une dose de Quai d'Orsay dedans.
Ah, une grosse dose, moi, de Quai d'Orsay, je trouve, parce que l'histoire de d'un petit jeune homme égaré en quelque sorte en politique. Alors il s'appelle Jaurès, bon, ça on aurait pu s'en passer. Ça fait 3 gags dans le film, ça fait cher le gag sur un nom juste. On aurait pu se passer de ça, et surtout effectivement, à bout d'un moment, le film tourne à vide. C'est-à-dire autant chez Tavernier, les choses allaient de plus en plus vite, de plus en plus fort, avec une sorte de machine folle et dingue qui était aussi la figure de Villepin, mais pas seulement, la figure aussi de Raphaël Personnas dans ce petit conseiller ministériel paumé. Là, au bout d'un moment, ça tourne à vide et le propos ne décolle pas, contrairement effectivement au film de Tavernier. C'est dommage.
On conclut avec Plongeon de Clément Cogitor et autres, hein, parce que c'est un programme de 6 courts-métrages réunis autour de la figure du plongeon. Saut dans le vide, lâcher prise, audace. Les protagonistes ici rassemblés devront surmonter leurs peurs, faire des choix personnels et finalement s'affirmer.
Attention, chef-d'œuvre. Non, je plaisante, mais attention, beau film, merveilleux programme de 6 courts-métrages rassemblés par l'agence du court-métrage, à laquelle il faut rendre hommage pour tout le travail qu'elle fait pour les courts-métrages. Alors, c'est destiné aux ados, mais franchement, si vous n'êtes pas un ado, vous pouvez franchement y aller. Le film s'ouvre par un court-métrage qu'on connaît de Clément Cogitor, qui est une incroyable scène filmée sur les Indes galantes de Rameau, où ce sont des danseurs de rap. Là, c'est le clip le plus beau qu'on ait fait musicalement ces dernières années, mais il y a aussi un film d'animation, il y a plusieurs films de fiction, et il y a à la fin un documentaire sur des gens qu'on n'oblige pas, mais qui veulent plonger de 10 mètres de haut dans une piscine, et ça, ce sont des moments formidables.
Le film français retenu pour les prochains Oscars, meilleur film étranger, non, c'est pas Jacques Audiard, c'est La douleur d'Emmanuel Finkiel. Je voulais aussi annoncer la projection ce soir à Paris, en plein air, à côté de l'ambassade de Russie, du film Gamer, d'Oleg Sentsov, le cinéaste ukrainien en grève de la faim depuis 130 jours, condamné à 20 ans de prison. Il réclame sa libération, bien sûr, mais celle surtout de 70 prisonniers politiques.
Alors, du 24 au 30 septembre, soit vous êtes à Annecy et vous allez découvrir le cinéma italien à travers ce beau festival qui existe depuis plusieurs années sur le cinéma italien, soit du 24 au 30 septembre, vous êtes à Biarritz, et alors dans ces cas-là, ce sera le cinéma d'Amérique latine avec le 27e festival du cinéma sud-américain à Biarritz, dont le président est cette année Laurent Cantet.
Pourquoi Benoît de Lépine n'est pas là? Eh bien parce qu'il est à Toulouse, au Fifigro, au Festival du film Grolandais, 7e édition qui va célébrer son président, Christophe Salingros, parti en mars dernier, un grand jury présidé par Philippe Découfflé, une compète officielle avec notamment Climax, Diamantino, Donbass en liberté, The House à Jack Built, le film de Lars von Trier, des cours et une grande parade cet après-midi à Toulouse et une soirée hommage à votre président à vie, Gustave.
Eh oui, non, mais c'est un festival avec des films incroyables, on a un programmateur... J'ose le dire, attention, chef-d'œuvre de festival.
Allez, ça Laurent, sera gimmick.
Laurent, bon, les cadeaux
comme vous avez donné
très
deux très beaux films, et on a envie de vous faire des cadeaux et de les signaler à nos auditeurs. Pour vous, Pierre Scheler, d'abord, Adieu Bonaparte, évidemment, après la Révolution, après 89, Bonaparte, Youssef Chahine, c'est chez TF1 Vidéo, et il y a un très très beau making-of en bonus. Et puis également pour vous, Pierre Scheler, ce Cornelius, le meunier hurlant, le beau film de Yann Le Kellec, que moi j'ai adoré, qui est passé un peu inaperçu, et dans lequel il y a un certain meunier, maire du village, qui s'appelle Gustave Kervern, et c'est un film très très drôle, très émouvant aussi. Pour vous, Gustave Kervern, vous avez droit d'abord à une comédie italienne de Mario Mattoli avec Toto. Moi j'adore Toto. Misère et noblesse, et vous verrez, il y a du répondant par rapport à vos préoccupations sociales, si je puis dire.
Et le deuxième, Laurent,
deuxième tout de suite, c'est Coin Coin, autre préoccupation sociale, Coin Coin et les Inhumains de Bruno Dumont, et là ça y va, entre le Front National et les immigrés, Bruno Dumont s'en donne à cœur joie, c'est chez Arte et édition, et c'est également visible en ce moment sur Arte, bien entendu.
Merci à tous les deux, merci Gustave Kervern, merci Pierre Scheler, et on se quitte avec ce générique que vous allez lire tous les deux, je vous fais signe. Au revoir.
C'est une émission inspirée par tous les films de cinéma.
Il y a des acteurs et des réalisateurs.
Il y a aussi des scénaristes et des chefs opérateurs.
Les prises de vue sont des prises de son.
Sporto Cantès a écrit la musique du générique.
T'es obligé de le dire comme Piccoli dans le mépris ou non?
Non.
Tu fais comme tu veux en fait.
Je me sens bien.
Bon, les morceaux ont été choisis par Muriel Pérez.
Rebecca de l'aéroport de Nantes s'est occupée de la préparation.
C'est une émission réalisée par Xavier Pestugia.
Pestugia. Elle est produite et présentée par Christine Delmas et Laurent Masson.
Et moi, Pierre Scheler.
Et moi, Gustave Kervern.
On y était.